Un dimanche après-midi de février 2010, le sergent-détective Jim Smith de l'unité d'analyse behaviorale de la police de l'Ontario menait de main de maître une entrevue qui allait mener à l'arrestation et à la condamnation d'un colonel au-dessus de tout soupçon. L'entrevue qui a fait école est le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Vous écoutez Après coup. On voulait parler du sergent-détective Jim Smith, qui a réalisé une entrevue qui fait école avec Russell Williams et qui a, en l'espace de 3-4 heures, réussi à récolter la preuve matérielle qui a permis définitivement de transformer Russell Williams en suspect. Et à le mettre en... c'est-à-dire de le transformer en témoin ou en tout cas en person of interest.
Oui.
En suspect, c'est-à-dire il a dévoilé une preuve matérielle,
ouais.
Et aussi à obtenir de lui une confession, d'abord qu'il était le coupable du crime dont on le soupçonnait, qui mm-hmm. était l'enlèvement et la séquestration de Jessica Lloyd, mais aussi de toute une série de crimes dont il était coupable, des crimes de nature sexuelle, violente, dont il était coupable et qui s'étalait sur 2 ou 3 ans.
Ouais,
et qui n'était pas encore élucidé. Cette entrevue-là, elle fait école parce qu'elle est menée de main de maître. C'est vraiment cool de le voir travailler. Puis on trouvait que c'était intéressant de...
Oui, ben c'est un... Je savais sans savoir, l'entrevue d'investigation, l'entrevue policière, c'est quasiment un... C'est un genre en tant que tel. Il y a un créneau, il y a des codes, il y a des façons de faire. Puis évidemment, c'est pas la même chose que notre métier. C'est pas une entrevue de psychologue ou une entrevue psychologique. Mais il y a certainement des similarités, entre autres, dans l'idée, au départ, en tout cas, lui, c'est ce qu'il fait d'une façon magistrale, c'est d'accueillir la personne, de pas se mettre de l'avant. C'est pas une affaire d'ego, c'est pas une affaire de...
C'est pas une affaire d'essayer d'attraper. L'entrevue n'est pas menée du tout d'une façon qui donne l'impression qu'il veut essayer d'attraper le vilain criminel, mm-hmm. tu sais, ou qu'il veut être victorieux ou gagner sur lui. C'est vraiment mené comme une entrevue psy, là.
Mais la twist aussi, hein, c'est qu'en fait, il dit à quelques reprises au départ, très candidement, Jim Smith, tu sais, il lui dit en fait sensiblement, comprends qu'il y a plein de gens qui s'occupent de ça, que c'est très important, que c'est très grave, qu'il y a plusieurs meurtres.
Et... C'est ça, juste pour préciser, au moment de cette entrevue-là, Jessica Lloyd a été enlevée, elle a disparu.
Ouais, elle n'a pas été retrouvée. Hein.
C'est ça. C'est une disparition suspecte. Tout le monde dans la région de Trenton... en Ontario, Trenton Tweed, proche de la base militaire où elle vit. Tout le monde est aux aguets, il y a des posters partout. On la recherche et on est très inquiet pour elle depuis une semaine. Ce qui fait que l'entrevue, elle est réalisée dans le cadre de la recherche de Jessica Lloyd qu'on espère retrouver vivante.
Ouais. T'as raison. Mais on se doute que, par contre, celui qui aurait fait cet enlèvement-là aurait aussi fait d'autres crimes, mais bon,
oui.
Il s'en doute, mais il le dit pas.
Oui.
L'entrevue, t'as raison de le souligner, c'est vraiment de positionner ça comme tu sais, Russell Williams, Jessica Lloyd a été enlevée, on la recherche, ainsi de suite. Nous, mais c'est ça que je voulais dire, il se présente comme nous, on essaie en fait d'interviewer des gens et d'éliminer des suspects. C'est ça la twist. On
oui.
essaie, fait qu'on veut t'enlever de la liste. Fait que donc, aide-nous à t'enlever, qu'on passe à d'autres choses.
Mm-hmm.
Puis ce qu'il lui dit pour un peu justifier parfois des questions pointues ou des questions qui pourraient paraître lourdes ou insistantes, il dit d'une façon très habile, il dit « Ben, nous, ce qu'on veut éviter, c'est qu'on soit obligé de revenir te voir dans une semaine, dans 2 semaines, pour revérifier des choses parce que je suis allé trop vite pour ne pas passer outre certains détails, dans le but de vraiment... faire ça comme il faut, t'éliminer, puis que c'est clean, permets-moi de te demander ta précision tout à l'heure. Qu'est-ce que tu portais, où tu étais, qu'est-ce que tu as fait quand tu es revenu? Et donc, c'est très habile, par contre.
Il y a tout le setting. Donc, tu as Russell Williams qui est convoqué en entrevue un dimanche après-midi parce que les traces de pneus qui ont été trouvées près de la maison de Jessica Lloyd correspondent aux pneus de la voiture, du 4x4 de Russell Williams.
Ouais.
Au moment de la recherche de Jessica Lloyd, ce qu'ils ont fait dans la région, c'est d'installer des barrages routiers et d'examiner un après l'autre les véhicules qui passaient pour voir la correspondance, voir c'était quoi les pneus qu'ils avaient. Mm-hmm. Donc, dans ce contexte-là, Russell Williams a été identifié comme quelqu'un qu'il pourrait être intéressant d'avoir en entrevue, d'autant plus que, quelque temps avant, il y a un autre meurtre, finalement, on va se rendre compte qu'elle a été assassinée, là, Jessica Lloyd. Il y a eu un autre meurtre qui n'a toujours pas été élucidé d'une militaire qui travaillait à la base de Trenton, dont Russell Williams, et le commandant.
Mm-hmm.
Donc, Russell Williams, c'est un militaire, commandant de la base militaire de Trenton, pilote d'avion, qui a piloté la reine d'Angleterre, qui a...
Jean Chrétien.
C'est ça, qui a des relations en haut lieu et d'immenses responsabilités, puis un aura de respectabilité autour de lui.
Ouais.
Mais là, on commence à voir qu'il y a certaines choses dans des affaires criminelles non encore élucidées qui le rattachent.
Qui pointent vers lui.
Qui pointent vers lui.
D'autant plus que quand il a été arrêté, il y a un moment qu'il a été arrêté par les policiers un peu avant l'entrevue, qui est un dimanche, puis ils lui ont demandé certaines explications, puis il a dit « je peux pas vous parler, j'ai un enfant malade ». Il a dit quelque chose qui était faux pour s'en aller. Est-ce que je comprends?
Je savais pas.
Ouais, mais je l'ai juste lu à un endroit, fait que je suis pas certain, mais je pense que oui. Mais c'est juste pour dire que, genre, je sais pas au complet, mais il y avait plusieurs, vraisemblablement, là, plusieurs éléments qui amenaient les policiers à penser qu'il était un suspect important, mais ce qu'il laisse pas du tout paraître.
On s'en doute pas du tout quand on regarde l'entrevue.
Mais là, laisse-moi te demander, par contre, moi, j'ai lu des analyses de l'entrevue, des analyses de cas qui trouvaient que Russell Williams y arrivait au début en étant très arrogant.
Ouais.
Moi, j'ai pas trouvé si arrogant. Non. J'ai trouvé un peu plus
naïf
qu'arrogant. Tu sais, il était comme un peu badou.
Sûr de lui. Il était sûr de lui, en fait. Ou il voulait agir comme s'il était sûr de lui, comme s'il n'était pas du tout inquiet. C'est drôle, hein, que tu dises ça, parce qu'il y a tout un discours autour de ces affaires-là, tu sais. Quand on sait, dans l'après-coup, qu'un tel a commis un crime, là, on se met à injecter des choses, on voit des choses...
Quelle arrogance, son regard, la froideur, mais...
C'est ça. Mais en regardant l'entrevue, qui est vraiment intéressante, là, qui est en deux temps, en gros.
Oui.
Tout le début, où il n'est pas établi qu'on le considère comme un suspect. Un point tournant, à partir duquel, là, il interagit avec le sergent-détective James Smith, en position d'être sur le point, d'être accusé formellement de toute une série de crimes gravissimes.
Oui.
Fait que c'est...
C'est très clair. Hein? Il y a un moment dans l'entrevue qui est vraiment un changement de paradigme. C'est pas un changement de ton au sens où il n'y a pas une coupure en termes de ton, en termes de positionnement, mais c'est en fait très... C'est sur le même ton, en fait. C'est un peu ce qui saisit, c'est que c'est un changement de paradigme sur le même ton où Jim Smith, il dit à un moment donné, je l'avais noté, là, il dit, je traduis, mais il dit, regarde, on sait tous les deux qu'on va trouver ton DNA partout. Alors là, à partir du moment où on le sait, là, ça va très vite. Là. Derrière moi, tout le monde est partout, puis ça va dans tous les sens, puis on trouve de plus en plus d'indices, de preuves que c'est toi. On le sait tous les deux. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Il y a comme vraiment un changement. Là. C'est plus des questions ouvertes. Je veux vérifier, t'étais là, t'étais pas là. Mm-hmm. C'est garde. C'est ce que c'est.
Mm-hmm.
Parlons-en.
Mm-hmm.
Puis là, c'est ça qui est saisi, puis qui finit par dire... Puis c'est là aussi, je voulais te parler de ça, parce que moi, ça me... la réaction de Russell Williams, c'est d'être silencieux, puis de dire, quand il se fait demander pourquoi tu es silencieux, est-ce que je peux t'aider, y a-t-il quelque chose que tu comprends pas, Jim Smith, il lui dit ça, y a-t-il quelque chose que je peux t'aider, il lui dit, it's hard to believe this is happening.
Oui, oui, aussi, oui.
Puis là, on dirait qu'il compute que là, il y a deux mondes séparés, complètement séparés, en fait. T'sais, son monde de tueur, de quelqu'un qui a des fétiches, quelqu'un qui est brutal, c'est un monde-là, avec son monde parallèle, qui switch très rapidement, hein, parce qu'il sort de chez lui, il va commettre des meurtres, il revient, ou il s'en va directement travailler, il fait des choses protocolaires, il conduit des dignitaires en avion. Il n'y a pas de... T'as l'impression qu'il n'y a pas de jeu entre le moment où il finit ses crimes et où il fait d'autres choses.
Non,
c'est très
ça.
Étrange. Je veux dire.
Non.
Oui. Quand il sort de la maison, ah, il retrouve son mode colonel. Ça va travailler.
Sauf qu'il y a une particularité quand même, juste une chose, parce que c'est un mystère insondable, là, ce qui se passe dans la tête de ce monsieur. Là.
Ouais.
Mais il y a une chose en particulier qui est digne de mention, c'est que il met des sous-vêtements féminins qu'il a dérobés chez des voisines ou chez ses victimes en dessous de son uniforme quand il s'en va au travail. Tu sais, il y a quand même du...
Ouais, il y a quand même de l'overlap.
Oui, c'est ça. C'est ça. Ça l'overlap.
C'est vrai.
C'est le cas de le dire.
Je n'avais pas pensé à ça.
Mais ce que je voulais dire tantôt par rapport à ta question qui était... c'est son arrogance du début, là.
Ouais.
C'est que là, t'as un colonel d'une base militaire, tu sais, comme quelqu'un d'extrêmement haut gradé, responsable de tout un ensemble de services très sérieux, là. Quelqu'un, tu sais, un dignitaire lui-même, qui rentre dans une petite salle pour être interviewé par un sergent détective de police,
ouais,
qui a l'air de rien du tout, puis qui lui parle toujours en s'adressant à lui par son prénom, tu sais, Russell. Puis tout le setting est...
avec respect, hein? Il y a
plusieurs... Avec respect
à plusieurs moments,
et
il lui
familiarité
dit...
en même temps,
ouais,
tu sais. Puis c'est très doux. Le début là est très doux, puis il y a comme absolument aucune manifestation de rapport de force ou de pouvoir. Et Russell Williams est, de ce que moi je vois là, est assez confiant, essaye de faire semblant ou essaye d'agir comme s'il n'y a rien là-dedans qui le dérange, sinon déposer des petits indices à l'effet qu'il est quand même quelqu'un d'important.
Ouais.
Par exemple, ça commence par Jim Smith qui lui demande bonhomme, as-tu jamais été dans un contexte comme ça? T'es-tu jamais retrouvé dans une salle d'interrogatoire policier?
Mm-hmm.
Et l'autre qui rigole, oh non, jamais, jamais, ça m'est jamais arrivé. Petit silence pendant que Jim Smith est en train de s'occuper de choses et d'autres. Et Russell Williams qui dit, à part quand j'ai été en entrevue pour obtenir une security clearance, tu sais, pour obtenir le droit d'accès à des informations hautement confidentielles.
Ouais.
C'est ça, c'est une petite affaire qu'il dépose, tu sais, comme quoi...
Moi, je me rappelais pas ça.
Moi, j'ai jamais été là,
ouais,
mais je suis quand même quelqu'un d'important.
De par mon statut. Ouais.
Oui, j'ai quand même un statut. Ça passe, de mon point de vue, c'est en réponse à ta question,
ouais,
tantôt, parce qu'il y a tout un discours, puis tout un paquet de trucs YouTube, puis même des profs d'université qui mettent de l'avant le fait que c'est un grandiose narcissique, machin,
arrogant,
etc. Moi, j'ai pas vu ça du tout.
Mais ben non, mais même, c'est même... Parce qu'au début, moi, là, je l'ai regardé plusieurs fois l'entrevue, mais les premières fois, j'avais pas à l'idée que le Jessica Lloyd, sa disparition date de quelques jours.
Puis elle n'est pas retrouvée, c'est ça.
Et en fait, je crois, sauf erreur, que ça date du lundi au mardi précédent et on est dimanche. Alors, tu sais, c'est pas comme s'il arrivait, puis là, on lui parlait de trucs qui sont passés il y a 4-5 ans, puis il est assez confiant que ça fait tellement longtemps qu'il n'y a plus de preuves, c'est terminé. Mm. Tu sais, dans les faits, la semaine avant, il est rentré par infraction chez elle, il l'a kidnappé, il l'a amené dans sa maison, il est allé la déposer son corps.
C'est ça, il l'a gardé 24 ouais. heures dans sa maison.
Mais fait que c'est difficile de penser quand même comment ça se fait qu'il se dit pas, dans tout ce qui est arrivé de si récent, tout à coup, il y a un voisin qui m'a vu sortir avec, on m'a vu en auto, il y a une caméra qui a saisi. Il a l'air complètement... C'est comme tellement séparé qu'on dirait que ça ne vient pas à l'idée qu'il pourrait avoir déjà plein d'indices qui pointent vers lui. Il arrive un peu innocemment. On dirait que c'est comme s'il se dit « je vais répondre aux questions, je vais dire non, pas du tout, avec mon statut, je vais être libéré, puis je vais faire ma vie. » C'est pour ça que quand il dit « It's hard to believe this is happening », puis là, ça lui tombe dessus que l'étau s'est complètement resserré. Mais resserré, que là, il est complètement coincé, que c'est terminé.
Mm-hmm.
T'as l'impression qu'il n'y avait aucune partie... En fait, c'est ça. T'as l'impression qu'il n'y a aucune partie de lui qui s'est dit en arrivant en entrevue « Est-ce que je vais être capable de partir de cette entrevue-là? » Tu sais, qu'il n'y a aucun doute là-dessus.
Ben moi, je suis pas d'accord. Parce que je vais te dire pourquoi. Une des choses à quoi j'étais attentive, parce que moi aussi, je l'ai écouté souvent, parce que c'est tellement une bonne entrevue, puis... Tu sais, tu dis c'est une entrevue policière, c'est pas une entrevue psychologique, mais en même temps, c'est tellement bien mené que ça pourrait servir à enseigner des théories et techniques d'entrevue à des psychologues. Tu sais, c'est tellement bien fait. Fait que je l'ai réécouté. Puis une des choses à quoi je suis devenue attentive, c'est comment il mangeait de la gomme. Comment il rentrait avec de la gomme
ouais.
à mâcher.
Ouais.
En fait, il y a deux choses à quoi je... Le rythme de son mâchage de gomme, c'est drôle. C'est drôle à dire.
Ouais.
Mais, tu sais, t'imagines, là, quand tu as une gomme, là, t'as une gomme dans la bouche, là, tu mâches, tu sais.
Ouais.
Quand tu mâches vite ta gomme, là, c'est pas que t'es juste en train de manger de la gomme. Puis l'autre chose, c'est que c'est un monsieur qui est très... qui commence à de la calvitie, là. Fait qu'il a le front très dégarni et qui est aussi très blanc. Et à l'occasion, son front rougit.
Ah oui, hein?
Oui. Puis c'est pour avoir eu la chance... Je sais que je me répète... que je radote, mais je veux leur dire encore, pour avoir eu la chance d'avoir YouTube, puis d'avoir cette entrevue-là publiée dans son entièreté sur YouTube,
ouais.
c'est comme ce que ça permet, c'est de revenir en arrière quand tu sais la fin,
oui.
puis de recommencer ton visionnement, puis d'ajuster tes interprétations initiales. Ça fait que moi, ce que ça m'amène à me dire, c'est des petits détails, ça n'a pas de... Ça ne me permet pas de présumer de son état d'esprit, là, dans l'ensemble, ou sa réflexion. Mais ça me donne l'impression qu'il est rentré là. Oui, j'ai eu un security clearance. C'est pour ça qu'une fois seulement, je me suis retrouvée dans un environnement qui ressemble à celui-ci, tu sais. Oui, je suis quelqu'un, tu sais. Oui, est-ce que je vais assumer, à un moment donné, il dit ça, est-ce que je peux assumer que vous allez être discret? Parce que si, sur la base, ils savent que vous pensez que j'ai fait ça, ça pourrait avoir des conséquences très sérieuses, tu sais. Tu sais, oui, je suis quelqu'un pour se contenir parce que sérieusement, on le dit, c'est un bonhomme intelligent qui s'est construit une vie, là, qui sait comment le monde marche à peu près assez pour pouvoir s'organiser dans la vie. Là.
Oui, c'est certainement.
Il ne sait pas ce qu'ils savent. Il se demande ce qu'ils savent. On est dans une partie d'échec, mais il n'est pas certain de... Qu'est-ce qu'on sait le concernant? Il a écouté CSI, il dit. Ils en ont parlé pendant.
Ouais, ouais.
Il ne sait pas ce qu'ils savent. Il veut essayer d'avoir l'air casual, mais la question reste, tu sais.
Oui, mais tu penses pas qu'il y a aussi quand même. Je suis d'accord avec toi.
Je pense qu'il est un peu nerveux.
Oui, oui. Point. Je comprends, mais pas assez par rapport à la proximité de ce qui vient d'arriver. dans
oui,
un sens.
Vrai.
Et
oui, c'est vrai.
Et
c'est
peut-être,
vrai.
Entre autres, parce que ce qu'on sait dans l'après-coup, c'est qu'il a fait le sauf-erreur, mais je pense que c'est ben, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'infractions
oui.
dans des maisons.
Oui.
Sans jamais être suspect de rien.
Oui.
Fait que, tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, ça commence en 2007, en septembre ou octobre 2007.
2007 ou
2017? Non, 2007.
2007?
Oui, oui, oui.
Ah, oui, hein, ça
ouais,
remonte
ouais.
à aussi loin.
Oui, oui, parce que l'entrevue.
Ah, oui, hein.
Oui, oui, c'est en. Oui, ça, l'étendue de ces crimes commence en septembre ou octobre 2007 et se termine. En, je crois, décembre 2010.
Ah oui, et, ah, oui. Ben oui, excuse-moi. Ouais. excuse-moi, ça fait 10 ans. Mais oui. Ben oui, excuse-moi.
Exact.
L'entrevue date de 2010.
Oui.
OK. Ben
et
oui.
puis l'entrevue, c'est donc quelques semaines avant, après.
Oui, oui, oui. Ouais. oui. Mon Dieu, j'ai eu un.
mais, non, mais pour dire que de septembre, octobre, là, à quelques semaines près, 2007, à ce moment-là, en 2010... Il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'infractions. Il a volé des choses.
Volé des choses, on peut-tu le dire? Je veux dire, c'est un comme disait Freud, c'est un pervers polymorphe.
Oui, il a volé des sous-vêtements féminins, des
ça,
centaines.
Chez ses voisines.
Beaucoup. Et moi, je pense que, comme il a fait beaucoup d'infractions, il en a volé beaucoup, il en a accumulé beaucoup, puis il y avait un système chez lui où il gardait tous ses vols, étaient comme compartimentés puis classés. C'est possible qu'il soit quand même qu'il ait quand même vécu une espèce de sentiment d'invulnérabilité, tu sais, où finalement il se fait jamais prendre, il se fait jamais interroger, il prend des risques, puis plus il prend des risques, ben, je sais pas, plus il prend des risques, plus ça fonctionne, mais il y a jamais rien qui se passe.
Mm-hmm.
Fait que c'est pas impossible qu'il soit arrivé là 3 ans plus tard en disant ben là ça va être une entrevue, puis ça va être comme le reste, je vais m'en sortir, parce qu'il s'en est toujours sorti facilement en prenant quand même beaucoup de risques. Et il y a une des premières femmes, parce que ça a évolué vite son affaire, là, c'est passé de rentrer dans des maisons, se masturber sur des vêtements féminins, envahir des chambres et tout ça, à attendre que les gens soient là, que les femmes soient là et les agresser en l'espace de quelques mois.
Mm-hmm. Mais, et les prendre en photo.
Oui, mais une des premières femmes, c'est quelqu'un qui habitait à 3 maisons de chez lui, il pouvait voir sa maison de sa cour.
Mm-hmm.
Fait que c'est prendre des risques énormes, mm-hmm. sans conséquences pendant plusieurs mois. Là.
Oui.
Fait que ça a peut-être contribué à son sentiment aussi, de son statut, du fait qu'il fait sans conséquence, qu'il arrive à l'entrevue quand même d'une façon un peu... Moi, j'ai l'impression quand même un peu cavalièrement. Là.
Oui, toi, t'as l'impression que c'était cavalier? Parce qu'en fait, c'était la question, c'était est-ce qu'il était arrogant, tout ça? Toi, tu trouves qu'il était cavalier?
Je trouve pas qu'il est arrogant du tout. Moi, je vois pas ça. Mais je trouve qu'il est insouciant par rapport au fait que quelques jours avant, il s'est promené en auto... avec la victime attachée, il me semble qu'il aurait pu se dire il y a peut-être quelqu'un qui m'a vu, je suis rentré chez nous avec.
Mm-hmm.
C'est quand même pas discret. Là.
Mm-hmm.
Je suis sorti de chez nous avec.
Mm-hmm.
Comment je peux être sûr qu'il n'y a pas un voisin qui a dit « Ben oui, je l'ai vu, j'ai vu l'auto, j'ai vu, j'y est arrivé à telle heure. »
Mm-hmm. Mm-hmm.
Mais ça n'a pas l'air, on dirait que ce monde-là est tellement comme séparé que il n'y a pas d'impact.
Ça fait que le point tournant de l'entrevue, c'est ça, justement, c'est que on jase, tu sais,
ouais.
On jase. Puis le Jim Smith lui pose des questions, puis le met en confiance, reconnaît son intelligence, lui manifeste du respect, est assis très proche de lui aussi. Puis
très proche. Hein.
Oui, puis c'est un inspecteur, un enquêteur qui n'a pas du tout l'air arrogant, justement, qui a l'air, en fait, qui est très doux, qui a l'air... qui paye pas de mine, comme on dit, qui a l'air d'un petit Colombo, tu sais, pose des questions. Bon, puis chaque question qui vient est expliquée par respect pour la personne, c'est-à-dire pourquoi je te pose cette question-là, c'est quoi mon point de vue, etc. Puis là, on crée un climat de confiance qui, à un certain moment... amène Jim Smith à demander à Russell Williams « Qu'est-ce que tu es prêt à me donner pour m'aider à t'éliminer
ouais.
comme suspect potentiel? »
Ce à quoi il lui répond, de quoi tu as besoin?
Oui. Il lui dit « Ben, l'ADN, serais-tu prêt à me passer une de tes bottes pour que je puisse imprimer la marque de bottes? » Et Russell Williams enlève ses chaussures.
Ouais.
Et c'est là que ça se met à débouler extrêmement rapidement. Il est pieds nus. Il est nu-bas, en fait.
Ouais.
Dans la salle d'entrevue. Il vient de volontairement donner de l'ADN. Il vient de volontairement donner ses chaussures. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ses chaussures? Il va l'apprendre plus tard.
Oui, parce que c'est là que très candidement, Jim Smith revient à un moment donné. Puis c'est là encore la... comment c'est... l'entrevue n'est pas un truc égo contre égo, moi contre toi, qui est le plus fort? Parce qu'il amène toujours ça en disant, regarde, moi, je t'ai toujours traité avec respect. Je continue à te traiter avec respect. Je veux comprendre. Mais là, je traduis librement, mais il dit, ça me dépasse, là, ça va très vite. Parce qu'à chaque fois que je quitte, on vient vers moi en disant, il y a d'autres preuves. Et là, ça, je perds le contrôle. Il faut que tu m'aides parce que moi, à chaque fois que je sors d'ici, il y a d'autres éléments. Puis là, il dit, ben là, un autre élément, il dit, regarde, on a des experts pour les traces. Puis les traces de pas, puis c'est quasiment l'équivalent des empreintes digitales. Puis on a quelqu'un ici, puis il le nomme, là, je ne l'ai pas noté, mais il dit, tu sais, un tel, c'est une sommité dans son domaine. Puis il dit, regarde, je vais te montrer, c'est la même trace, tes souliers, tes bottes, puis ce qu'on a trouvé à côté de la maison de Jessica Lloyd. Fait que c'est là, faut qu'on... qu'est-ce que tu dis de ça, là? Puis c'est là qu'à un moment donné, oh, là... Puis ça, après ça, il dit, là, on sait tous les deux qu'on va trouver ton DNA tout partout. Il faut... Là, c'est là que le piège est refermé.
C'est là que ça bascule.
Ouais. Puis c'est là qu'il dit, c'est dur de croire que ça arrive. Puis très rapidement, pas très rapidement, mais... À un moment donné, il dit, Russell Williams, quand même pas longtemps après, il dit, call me Russ.
Oui.
Puis il dit, bon, ben, it's wide open now. Il comprend que c'est fini, puis il dit, fait, qu'est-ce que tu veux savoir? Puis là, il n'y a plus de cachette. Il y en a encore quelques-unes, parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas admettre, mais pour le reste, c'est interroge-moi, on commence par qui tu veux, je vais dire ce qui s'est passé, puis l'entrevue vient de changer de ton complètement. Là, c'est maintenant juste une longue confession.
L'élément qui permet ça, il y a un long silence, là, c'est ça. Il y a le moment de bascule où Jim Smith revient avec l'impression de la trace de pas de la chaussure de Russell Williams et l'impression de la trace de pas qu'on a récoltée, qu'on a photographiée autour de la maison de Jessica Lloyd.
Mm-hmm.
Et la comparaison, et là, tu vois que Russell Williams est comme scotché.
Ouais.
Il est fait. Et là, suit un très, très, très long silence. Puis tu le vois travailler, Jim Smith, hein? Il est assis très proche de Russell Williams tout le long depuis le début. Sa voix est très douce, très rassurante, amicale et rassurante. Là, ils sont assis très proches. Il y a des longs silences. T'as Jim Smith qui mime. L'entrevue a été analysée par plein de monde, là, dont... dans un épisode du Fifth Estate, des gens interviennent, des anciens policiers, pour dire regardez-le, c'est vrai, regardez-le mimer le comportement, la gestuelle.
Ouais.
Tu sais comment il tient sa main, il tient son menton avec sa main, par exemple. Tu sais, juste pour, dans le silence. Puis éventuellement, Jim Smith lui dit, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'enjeu avec lequel tu luttes en ce moment?
Ouais.
Et c'est là que Russell Williams lui dit, après un autre silence, « Je suis inquiet de l'impact que tout ça va avoir sur ma femme. »
Exact. « I want to minimize the impact on my wife. »
C'est ça.
Ouais. Et là, il trouve son c'est hook.
Ça. C'est ça le hook, c'est ça.
Puis il lui répond à ça, Jim Smith, « So do I. »
Oui. On est en équipe, en fait.
Oui.
Fait.
Mais, je dois dire, c'est ce qu'il lui dit, je dois dire, ça va très vite. Ils vont aller fouiller dans la maison. Aide-moi à les aider. On essaye d'être le plus respectueux. Puis là, ça change parce que, vraisemblablement, puis ce qu'on sait par la suite, c'est que s'il y a une chose qui définit la vie de Russell Williams... Ben, s'il y a une chose qui définit, il ne faut pas que je le dise comme ça, il y a plein de choses qui définissent sa vie, dont tous ses crimes épouvantables, mais on peut le dire aussi que nonobstant ces crimes épouvantables-là, c'est un homme dévoué à sa femme dans les apparences, c'est-à-dire qu'il est très précautionneux autour d'elle. Il y a toujours le souci, ça a été quand même corroboré par plusieurs personnes qu'il connaissait, il y a toujours le souci de savoir elle est correcte, puis d'être avenant envers elle. Puis
c'est vrai.
Ils ont ce mode relationnel-là. Et dans, en entrevue, ça continue. Il, la raison, puis c'est quand même pas n'importe laquelle, il dit pas « Oui, je vais vous dire où j'ai caché le corps de Jessica Lloyd il y a 5 jours, parce que ça doit être terrible pour sa famille, puis c'est pas... » C'est pour protéger sa femme. Il y a quand même un... C'est orienté, son truc, quand même.
Oui, oui. Je savais pas ça, le... C'est-à-dire, son rapport à sa femme, c'est un rapport de soins, un rapport de protection, un rapport comme avec son chat.
Oui, mais tout le monde dit ça. He's a doted husband. T'sais, il est très avenant, il est très prévenant, il est très... Ils ont une relation très proche, puis il y a le souci. Puis c'est ce qu'ils disent en entrevue, hein. Sa femme vient de se construire la maison de ses rêves, puis là, sa préoccupation, c'est que les policiers viennent pas la détruire, puis en fouillant dans la maison. Fait que c'est ce qui fait qu'à place de dire, ben, parce qu'il aurait pu se garder... C'est là qu'il est pas arrogant, il dit pas « je m'en fous, arrangez-vous avec vos troupes, je vous ai dit que j'étais coupable ». Il prend le temps de bien dire où sont cachées toutes les choses, où ils vont trouver toutes les preuves pour que les policiers puissent être ciblés dans leur investigation dans la maison de sa femme, mais qui est la sienne aussi, mm-hmm. par souci pour sa femme.
Il y a un truc qui est fascinant, c'est vraiment difficile d'écouter quelqu'un en passant outre l'horreur des crimes qu'il a commis, surtout si ce sont les crimes qu'il a commis qui font qu'on pourrait être amené à l'écouter.
Oui.
Fait qu'il y a tout un... Il y a plein de monde qui sont intéressés à ça. Il y a toute une communauté de true crime, tu sais,
ouais.
Il y a des gens qui... des docteurs qui font des
grandes spéculations.
Des grandes spéculations. Semble-t-il, prétendument, que la science démontre ceci ou cela ou machin, que c'est un narcissique ou que c'est un psychopathe ou que... Mais il y a un truc qui vient avec cette entrevue-là, bousculer tout ce qui pourrait être comme des présuppositions, tu sais, qui vient comment...
En fait, je peux t'interrompre.
Oui.
Peut-être que je ne dirais pas justement ce que tu veux dire, mais moi, j'avais l'intérêt... Avec le recul, l'entrevue et la façon dont elle est menée vient complètement scraper toutes les élucubrations post-entrevue sur comment des psychopathes sont supposés agir puis comment des tueurs en série
exactement.
Agissent. Parce que c'est pas
exactement.
Ça, c'est pas du tout comme ça
exactement.
Qu'ils le traitent.
Tout à fait, exactement.
Et ce cas-là, c'est un truc incroyable. T'as ce colonel-là reconnu, un leader accepté, vénéré, mais il y a un statut, puis qui commet ces crimes-là en l'espace de quelques années. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas le déclencheur, on ne comprend pas le build-up. Personne n'a vu la perversion, fait qu'il n'y a personne en après-coup qui dit « Ouais, on a toujours su que c'était un drôle de zigoto. »
Puis il les a toutes. C'est ça aussi, c'est que c'est un type, tu vas voir... Le sadique, tu sais, on a toute la classification, là. Il y a des longues listes des paraphilies, tu sais. Fait que là, tu vas avoir des sadiques qui sont pas comme des voyeurs, qui sont pas comme des pédophiles, qui sont pas comme des, tu sais.
Mais lui, il les a toutes.
Il y a toutes.
Oui, puis dans un crescendo très rapide.
En dedans de 3 ans.
C'est ça, sans raison manifeste extérieure qu'on peut voir.
Semblerait que quelque chose lui est arrivé dans sa vie. Pas longtemps avant que tout ça se mette à se dérouler comme ça. Mm. Et ça, ça vient du psychiatre qui l'a interviewé et qui témoigne dans un des trois épisodes. Ça aussi, c'est une autre affaire, tu sais. T'as 3 épisodes du Fifth Estate consacrés à ça. Je sais pas pourquoi 3, mais en tout cas, ça vend. C'est probablement ça aussi. Ouais. C'est comme sordide, c'est épeurant, c'est comme de l'horreur dans la vraie vie, tu sais.
Ouais.
Dans un des épisodes, on reçoit le psychiatre qui a été comme traumatisé par cette évaluation-là qu'il a faite et qui a rencontré personnellement Russell Williams et qui a su des choses qu'il n'a pas partagées dans le cadre du documentaire et qui sont pas d'ordre public,
ouais.
qui a su des choses qui l'ont amené à dire « Il est arrivé quelque chose à ce monsieur, à partir de quoi il a comme perdu le contrôle. » Tu sais, il y a ça. Puis il a perdu le contrôle en comment, en manifestant tout un paquet de ce qu'on appelle en sexologie ou en criminologie les paraphilies.
Mm-hmm.
C'est en fait ce qu'on appellera en psychanalyse les objets partiels.
Mm-hmm.
L'image, le linge,
ouais.
La pédophilie, un côté pédophile, ce que lui ne reconnaît pas, mais je veux dire, un intérêt pour des vêtements de petite fille, là, de se tourner dans les toutous de la petite fille.
Oui, puis de la pornographie juvénile de trouver dans ses affaires.
Oui, le sadisme.
Oui.
Il a séquestré quelqu'un. Le fait de se cacher et surprendre sa victime comme un stalker, là.
Le build-up de sadisme aussi, hein, parce que c'est là aussi quand tu dis qu'il y a toute la panoplie, c'est que, tu sais, il a vraiment commencé par aller dans des maisons, voler des vêtements, se masturber dans la maison, dans la chambre de la petite fille ou de la femme, puis après ça, il est entré quand les femmes étaient présentes, puis après ça, il a eu des relations sexuelles avec elles, puis après ça, il les a tuées. Tu sais, il y a vraiment un build-up...
Oui. Après, c'est ça. Avant de les agresser physiquement, il les a pris en photo.
Ouais.
C'est pas rien, là. Le rôle de la photo puis de l'image.
Oui, parce qu'il y a toujours sa caméra, hein. Oui. Toujours sa caméra et, son...
Ça fait partie de la preuve accablante, tu sais, qu'il a filmé tout.
Oui, puis c'est tout bien classé.
Ah oui, c'est ça.
Avec les initiales des victimes.
C'est ça. Puis, en fait, il y a toute la culture de la criminologie, puis de la psychologie criminelle, là, forensic psychology, puis de tout ce qui découle de Hare Checklist, là, ce que Hare, qui est un criminologue, psychologue de la côte ouest canadienne, là, a étudié, là, a établi, a déterminé une classification autour de la psychopathie. C'est comme il y a tout un discours qui s'interpose entre quelqu'un qui étudie, qui fait une analyse de cas et le cas qui est étudié.
Ouais.
C'est comme c'est difficile de passer par-dessus ou de pas se laisser distraire par tout le discours qui a précédé la rencontre. Parce que tout ce discours-là, ce qui entoure Russell Williams, finalement, c'est comme... prendre un cas qui est particulier puis le rendre général dans une logique générale.
De classement.
De classement, ce qui annule tout ce qu'on pourrait tirer comme enseignement de ce cas-là en particulier et qui nous est donné par Jim Smith, dont l'art de l'entrevue, qui a mené cette entrevue-là de main de maître, là, comme c'est de l'art, c'est... Moi, personnellement, je trouve ça hallucinant. Je sais que je ne suis pas la seule. C'est analysé, ça va faire école, cette entrevue-là, on en parle, etc. Mais pour pouvoir mener cette entrevue-là, c'est vrai que tu arrives avec un schéma d'entrevue, tu arrives avec des questions, t'es préparé, tu t'es fait une idée du genre de personne à qui tu t'adresses. Tu arrives comme ça.
Ouais.
Mais pour pouvoir la mener comme il faut que tu sollicites en toi... Une dimension humaine.
Oui, parce que, tu sais, quand Russell Williams, par exemple, dit après un long silence, quand il sait qu'il est piégé, il dit « Mon souci, c'est de minimiser l'impact que ça va avoir sur ma femme », puis que Jim Smith répond assez rapidement, avec un ton tout à fait juste, « So do I ». Là, ils travaillent ensemble pour dire « On va... » Puis là, il dit « OK, qu'est-ce que je fais ?» Puis Jim Smith lui dit « Well, tell the truth ». L'autre, il dit « Well, it's wide open right now, right ?» Il dit « Oui ». Puis il dit « Par qui on commence ?» Il dit « Par qui tu veux ?» C'est parfait.
C'est que c'est ça.
Mais tu sais, s'il est arrivé c'est avec ça. La grille du psychopathe qui est froid, qui n'a pas de sentiments...
Oui.
Tu sais, ça fonctionne.
Mais tu le vois dans... Je ne sais pas si tu as vu ça, mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dans un des épisodes du Fifth Estate.
Très bon, le Fifth Estate, en passant.
Hein. C'est très bon. C'est très bon. Oui.
On est Canadiens, on peut le dire. C'est très bon.
Ben, on est des citoyens. Moi, je suis citoyenne du monde. Là.
Non, mais je dis ça. Parce que c'est un autre débat que je veux pas faire, mais...
C'est à toi. Le Fifth Estate t'appartient. Non. T'as des raisons d'être fier.
Non, mais c'est pour dire que des fois, j'ai l'impression... C'est vraiment à côté, c'est un aparté. Tu sais, il y a des choses comme ça, je trouve, qui fit tout à fait. Je m'attends à ça du Fifth Estate. C'est très bon, le ton est très bon, c'est très juste. Mais là, après ça, tu te dis quand même, arrivé très proche. C'est très proche, là. C'est Ottawa. C'est très proche
tout
du Québec,
fait.
Là.
Tout à fait.
Puis, oui. T'as l'impression qu'ici, à cause de la langue, ça reste qu'un truc étranger, puis oui, c'est une des marottes oui, que j'ai, là, mais...
Oui. Qu'on n'a pas d'émission comme ça dans pas... la télé francophone.
Puis que c'est pas pareil.
Non,
puis je sais,
non.
Puis c'est prenant quand tu vois ça. Pourtant, ça s'est passé... Hey, écoute, à Ottawa, oui. Ottawa, c'est pas loin, là.
Non, c'est pas loin.
Puis des fois, il est à Gatineau.
C'est moins loin. De chez nous, c'est moins loin, Ottawa, que Saguenay, tu sais.
Ouais.
Que
mais, Gaspé. Mais c'est un autre monde.
Mais c'est ça.
Fait qu'ici, ça, j'ai vu là, qu'on en a parlé un peu. Puis c'est pas comme s'il n'y avait pas eu de publicité, mais... pas de publicité, mais de compte-rendu de ce qui s'est passé, mais tu sais, dans l'après-coup, c'est un autre ton, il y a une distance, c'est ailleurs.
C'est ça, mais c'est bref. Comme traiter un crime qui s'est commis au Japon, par exemple, tu sais. Ouais.
Mais bref, excuse-moi, tu disais du Fifth Estate?
C'est que il y a un épisode du Fifth Estate qui est consacré à l'affaire, en fait, qui est surtout consacré à l'entrevue, à la confession et à l'analyse de cette entrevue-là. Et on convoque pour analyser cette entrevue-là beaucoup de gens, dont, entre autres, un ancien policier qui, en live, commente... Ben, en live, pas en live, mais c'est-à-dire qui tu sais, dont on retient des extraits de commentaires
ouais.
pendant qu'il regarde l'entrevue. Puis ça me frappe vraiment, en tant que psychologue clinicienne, ça me frappe vraiment comment cet ancien policier-là, de mon point de vue, ne comprend pas ce que moi je vois, ne ouais. voit pas ce que moi je vois, et en fait, semble injecter dans l'entrevue des sentiments très caricaturaux policiers.
Mmh.
Type, il dit à un moment donné, c'est « Ah, regardez, c'est une excellente entrevue. » Il y a comme... Ça, c'est unanime. Ce gars-là, Jim Smith, c'est quelqu'un qui a été capable de toucher le cœur d'un potentiel tueur en série, là, d'un sadique, tu sais, etc., en s'adressant à lui comme à un humain et non pas comme à un monstre.
Mm-hmm.
Ce qui peut sonner épouvantable pour des gens qui sont proches des victimes ou qui a, par contre, eu comme effet qu'il a pu obtenir des confessions, qu'il ouais. a pu retrouver... Ils ont pu retrouver, finalement, Jessica Lloyd. Elle était morte, mais il a confessé et il a dit où est-ce qu'on pouvait la trouver, ce qui est super important pour les familles des victimes.
Ouais.
Mais en tout cas, t'as ce policier-là qui regarde ça comme un commentateur de sport, tu sais? C'est-à-dire... Il y a l'équipe des bons, qui est notre équipe, puis il y a l'équipe des méchants, qui est l'autre équipe. Puis je suis en train de vous dire, je vais vous dire, ce qui se passe dans la tête de Jim Smith, c'est que là, il est super content. Yes! On a jamais le... On a pogné le, tu sais, the mother beep!
Ouais, je suis pas sûr, de ça. Hein.
C'est l'ancien policier... qui essaye de se recycler en commentateur, qui injecte dans Jim Smith les sentiments que lui aurait éprouvés dans un contexte comme celui-là, mais qui aurait empêché, si tu veux mon opinion de psychologue clinicienne,
ouais.
qui aurait empêché la confession de Russell Williams.
Ouais.
Tu vois-tu? C'est pas nous contre eux.
Mais puis il y a rien,
les
hein?
gentils contre les méchants. L'équipe A contre l'équipe B, puis si l'équipe A gagne, on se fait tout un high-five, puis on est là, yes! Non, non, t'as un sergent détective qui est enfermé dans une pièce, dans un huis clos, avec un potentiel sadique
mm-hmm.
qui finalement va s'avérer tel, qui s'adresse à son humanité, nonobstant qu'on puisse le coter à 8 sur 10 ou à 20 sur 20 ou peu importe dans l'échelle de hair, tu sais, peu importe, je m'adresse à toi en tant qu'humain.
Ouais. Oui, t'as raison. Il n'y a rien qu'on... Vas-y.
Et qui, en retour, est potentiellement traumatisé par ce qu'il entend, parce que après ça, Russell Williams lui raconte c'est quoi qu'il a fait, puis comment il a... C'est que tu te mets à nu comme... individu, tu sais, au-delà de ton rôle puis de ton équipe et blabla, tu sais.
Toi, t'as-tu entendu que Jim Smith avait été très affecté par la suite, par l'entrevue?
Non, non. Ce que j'ai vu, c'est que il y avait... Il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés.
au contact.
Par ce cas-là,
ouais.
Des gens qui ont été directement impliqués, dont le psychiatre qui a fait son évaluation psychiatrique, dont un certain nombre de policiers qui ont été impliqués, d'enquêteurs qui ont été impliqués dans l'enquête, parce qu'il y a des enregistrements audio-vidéo épouvantables.
Ouais.
Jim Smith est intervenu comme conférencier dans différents lieux où on parle de syndrome de stress post-traumatique, sans, à ma connaissance, parler directement de ce cas-là. Mm. C'est un gars qui a travaillé... Tu sais, il a travaillé dans des trucs très difficiles, en fait, avant d'atterrir là. Mm-hmm. Tu sais, il a comme une carrière avant ça. Mm-hmm. Ça, c'est pas toute sa carrière. Il a une carrière avant ça. Et il est marqué très personnellement par différentes choses de sa carrière. Fait que je sais pas si lui, personnellement, est traumatisé par ça en particulier, mais je sais que c'est une personne humaine.
Oui, oui, non, tout à fait. Mais c'est qu'on peut, parce qu'on peut penser, moi, mon idée, c'est qu'il était peut-être pas traumatisé parce qu'un des aspects traumatisants de l'affaire, c'est d'être obligé de voir toutes les vidéos et toutes les preuves matérielles et que peut-être que lui, comme son c'était travail était son... fait...
C'était pas son rôle.
Mais tu sais, je veux dire, une autre affaire aussi dans l'entrevue, parce qu'il en appelle au côté... Il se connecte vite au côté obsessif méticuleux de Russell Williams, parce qu'en fait, à un moment donné, toute l'entrevue devient tranquillement, méthodiquement, des questions sur qu'est-ce que t'as fait, comment tu l'as agressé, comment tu la tenais, comment tu l'as attaché, avec quoi, du duct tape, quelle couleur. Puis à ça, ce qu'on sait par la suite, c'est que Russell Williams était très méticuleux dans sa façon d'archiver puis de regarder tout ce qu'il avait fait puis qu'il avait en tête dans le détail. Tout ce qu'il avait fait comme sévice versus quelqu'un qui était intéressé ou qui carburait au pourquoi de l'affaire.
Mm-hmm.
Parce qu'à un moment donné, il lui dit, t'as-tu déjà pensé à... Jim Smith lui demande, t'as-tu déjà pensé à d'où ça vient, pourquoi t'as fait ça? Puis l'autre lui répond, ben oui, mais je pense pas que ça a de l'importance. Puis ça en reste là. Puis après ça, il continue avec, OK, avec telle personne, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je suis arrivé par telle façon, je l'ai assommé, avec quoi, avec mon truc. Ça devient très, très le détail matériel et concret de l'affaire. Et pas du tout, tu sais, Russell Williams est pas du tout, pendant l'entrevue et après, zéro intéressé à confesser ou à dire les raisons. Il n'y a rien, zéro. Il n'a jamais rien dit. On n'a jamais. Il a peut-être déjà dit des choses au psychiatre, je ne vais pas assumer trop, mais. Comparativement à d'autres, il y a du monde qui sont très bavards de justifier puis d'expliquer. Lui et sa femme n'ont jamais rien dit de rien. Fait qu'il y avait cet aspect-là de dire qu'il a été vite sensible au fait que Russell Williams n'était pas intéressé à extrapoler sur le pourquoi, du comment, de sa vie, de ce qui était arrivé, de l'aspect psychologique de l'affaire. On n'a jamais vraiment rien su. À ma connaissance, donc, il n'a jamais fait d'entrevue avec personne, il n'a jamais écrit de lettre, il a écrit des lettres s'excusant, mais il n'a jamais écrit de lettre expliquant. Les deux seuls éléments qui ont été notés par des gens qui ont étudié le cas de sa vie, qui ont interpellé les gens, c'est de un, quand il était jeune, je pense à l'âge de 6 ou 7 ans, ses parents sont séparés, mais sa mère est allée tout de suite en couple avec le mari, puis son père avec la femme d'un couple qui est ami de la famille. Fait qu'il y a comme eu un switch. Dans une famille, je le dis mal, là, mais il y avait un couple qui était des amis de la famille, et en l'espace de quelques semaines, pour un enfant de 7 ans, il y a un nouveau père qui était...
L'ami de la famille.
Et il a pris son nom. C'est quand même pas rien. Donc, il a adopté le nom de son beau-père. Ce qui a par la suite changé, puis il est redevenu, à un moment, on sait pas pourquoi, mais à un moment donné, il est redevenu Russell Williams, il est revenu avec le nom de son père, biologique. Donc, il y a cet aspect-là qu'on a noté, puis, mais tu sais, des gens disent « Ah oui, quel effet ça a pu avoir », mais avec des crimes si horribles, avec une panoplie de crimes à divers degrés, c'est un peu dérisoire après ça de ramener ça à des événements de vie, tu sais, un divorce, c'est pas drôle, mais ça colle.
Ça explique ça rien. Explique,
il y a ça, puis il y a l'idée qu'il y avait un intérêt démesuré. Lui et sa femme, qui formaient un couple quand même, à ce qu'on comprend, assez proche, à certains égards, en tout cas. Il y avait un intérêt très, très poussé pour les chats. Donc, il y avait un chat familial, qui avait depuis longtemps, longtemps, et le chat était très investi. Et notamment, ce que la petite histoire raconte, mais c'est quand même pas rien, c'est que quand ça a été le temps d'euthanasier son chat, qui s'appelait Curio, pour pas que le chat soit bouleversé par l'affaire de sa mort, ils ont fait venir le vétérinaire à la maison pour que le chat puisse mourir dans des conditions familières et stables, entouré d'amour, comme de raison. Tu compares ça au crime qu'il a commis, puis au meurtre qu'il a commis, puis au sadisme, il y a un clash. Mais outre ça...
Mais le chat est mort peu de temps avant que tout ça commence aussi.
Aussi.
C'est ça.
Et de ce que je comprends... Il classifiait les photos et les vidéos de ses crimes, de ses meurtres, mais il y avait aussi des centaines de photos de son chat, qui est quand même une drôle d'histoire. Mais après ça, c'est pour ça que les études de cas par rapport à ce qu'il pourrait expliquer disent pas grand-chose. Ils sont obligés de se rabattre sur la littérature scientifique qui dit que bon, ben... T'sais, pour être psychopathe, il faut avoir 8 critères sur 12, puis voilà, il y en avait-tu un tel ou non, ça dépend, on sait pas.
Quel nom on donne à quoi? Oui. C'est ça.
Oui, puis lui, il finit par avoir un paquet d'affaires, parce qu'il a fait un paquet de choses. Mais en termes de comprendre, d'aller plus loin, il n'a jamais rien révélé, ni lui, ni sa femme non plus.
C'est vrai.
Parce que sa femme aurait pu dire, ça arrive, hein, c'est pas qu'il n'y a pas eu de demande, d'entrevue, puis pas nécessairement l'année après, ou 2 ans après, ou 5 ans après, mais ça, à un moment donné...
J'ai quand même le goût d'ajouter une autre dimension qui est comme, j'ai l'impression, qui est pas évidente à comprendre ou à avoir à l'esprit, c'est la dimension militaire. Dans l'opinion publique, dans l'esprit en général, un soldat, c'est quelqu'un qui rentre dans l'armée, puis qui s'en va à la guerre, ou en tout cas qui s'habille en uniforme. Il n'y a pas nécessairement d'idée de profondeur de l'investissement que ça prend d'être un militaire. Là, tu as un militaire, quelqu'un qui est un colonel, qui est un commandant d'une base militaire, qui est dans un régiment aéroporté. C'est un pilote d'avion.
T'sais.
Quand on dit il y a le souci, son premier souci, c'est pour sa femme. Et sa première réflexion, c'est comment est-ce que ça va avoir un impact sur sa femme. C'est pas étranger à ce que ça peut être d'être un militaire, particulièrement quand t'es un officier. T'es engagé. Tu sais, un officier, c'est pas un soldat. Tu sais, tu pars pas comme soldat pour éventuellement devenir officier. Un officier devient officier après une formation. Il rentre, lui, à l'université militaire. Qui va le former comme chef militaire? Tu sais, tu passes pas de soldat à officier, tu passes de premier niveau d'officier à officier supérieur. T'sais, tu sais, tu es formé pour être officier.
Ouais.
Ce que ça implique, c'est l'esprit de corps. Ce que ça implique, c'est le souci pour le bien-être des troupes, la responsabilité pour des gens en dessous de toi. Puis plus tu montes, plus le nombre de gens en dessous de toi est grand.
Oui.
Puis quand tu es commandant d'une base militaire, tu es responsable du premier soldat qui, lui, n'est pas rentré à l'université militaire, tu sais, à une école militaire qui est pour la formation des officiers, mais qui est rentré par la porte du soldat. Tu es responsable du premier soldat jusqu'au dernier officier en dessous de toi qui est le plus haut, parce que c'est toi qui es en haut. Fait que t'as une responsabilité de corps. Fait que quand on dit « là, 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 c'est un psychopathe comme la docteure Margot Watt, qui est spécialiste, qui a consacré sa carrière à... avoir une opinion sur un psychopathe puis un autre, ou ce qu'elle considère comme un psychopathe puis un autre, quand tu vas dire « Ah oui, c'est un grand chef militaire, fait que donc, il est habitué à ce qu'on le serve, etc., etc., que ta compréhension est teintée de la soi-disante littérature sur la psychopathie ou sur, tu sais, tu peux pas nécessairement mesurer l'effet formateur que ça a sur quelqu'un de passer à travers des échelons militaires qui sont des échelons qui déterminent les hiérarchies de responsabilité.
Fait que toi, en fait, tu dis que c'est pas tant qu'il était habitué à se faire servir qu'il était habitué à servir.
Ben, on pourrait peut-être le dire comme ça. On pourrait peut-être le dire comme ça, puis plus...
finement.
Finement, ce serait... Être dans l'armée, ça t'habitue à te désubjectiver comme individu au bénéfice d'un fonctionnement de groupe. Ça n'aurait pas de sens, sinon tu peux pas dire à des gens sur un bateau aux côtes de Dieppe débarquer puis on court, sachant que tout le monde va être comme... Non, ils vont tous se faire tirer dessus, puis que la probabilité de mourir est de 1 sur 2, là, tu sais. Tu peux pas leur dire « go » si chacun se considère comme un individu avec des droits, avec des privilèges,
il y a une abnégation,
machin. Ouais. Il y a comme... T'es entraîné, quand t'es un militaire, à te désubjectiver au profit du corps. Puis quand t'arrives en haut, tu sais, il y a des dérapages, puis t'as plein d'affaires en haut, c'est de la politique aussi, mais quand t'arrives en haut, c'est aussi au terme d'un entraînement à la désubjectivation. C'est obligé. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Tu sais? Puis plus tu te démarques comme quelqu'un de désubjectivé, ou ben non, c'est vrai que probablement que quelqu'un hyper narcissique peut fonctionner super bien dans... Tu catches comment ça marche, puis tu sais, tu t'en sers. Mais l'entraînement lui-même est tellement exigeant que c'est dommage de le sous-estimer.
Oui, je comprends.
Ça enlève toute une
tout un pan de l'affaire. Hein.
Oui. Tu peux dire, OK, il était chef de l'armée, fait qu'il est habitué de se faire servir, blablabla, je sais pas trop, puis on comprend pas. On trouve que c'est un cas unique parce que normalement, un psychopathe, je sais pas quoi.
Ouais.
Mais ça reflète surtout l'incompréhension qu'on peut avoir face à quelqu'un qui est très, 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 très fonctionnel et performant au point d'arriver à des fonctions prestigieuses qu'on pourrait, comme prof d'université, par exemple, ou chercheur ou machin, penser qu'il est de notre niveau, c'est-à-dire on pourrait penser qu'il nous ressemble, ce qui rend les choses beaucoup plus incompréhensibles, en fait. C'est comme comment quelqu'un d'aussi normal et décoré, machin, machin, qui a piloté un avion qui contenait la reine d'Angleterre peut être quelqu'un d'aussi psychopathe?
Oui, mais il y a ça aussi, hein. Il y a l'idée de quelqu'un qui est dans une profession qui est très protocolaire, qui a plein de symboles, qui a plein de façons d'agir, qui a plein de... Ouais, de protocole, je pense qu'on peut dire ça. Puis à laquelle les gens croient, puis qui élèvent des fois à des niveaux disproportionnés par rapport à ce que c'est. T'sais, c'est le propre de l'armée, à un moment donné. Et donc, de lui... puis parce qu'on l'a vu, tu sais, des fois, les photos où il a l'air très protocolaire, très sérieux, un colonel, il reçoit une dignitaire, reçoit la reine, il la
Mais il a fallu qu'il monte pour se rendre là.
C'est sûr. Mais donc...
C'est pas par accident qu'il était là.
Non, non, exact.
Il s'est distingué.
Mais la nuit du jour où il incarne le symbole du protocole du colonel qui reçoit Sa Majesté la reine... Il rentre dans la chambre d'une fille de 12 ans, puis il utilise sexuellement ses sous-vêtements. Il y a un contraste quand même total et complet.
Qu'on pourrait dire, si on était René Girardien, qui est un symptôme civilisationnel, qui n'est pas... Tu sais, si on dit... Lui, c'est le psychopathe inusité, mais... on va trouver une façon de le rentrer dans les modèles qu'on préconnaît.
Qu'on présuppose, ouais.
On préconnaît des choses, fait que il faut qu'on trouve une façon de le faire fitter dans les modèles qu'on a. Bon, ben c'est une façon de ne pas tirer des enseignements de toute cette affaire-là, tu sais. Mais dans un modèle qui prendrait en considération comment on perçoit quelqu'un qui est un commandant d'une base militaire et comment c'est incompatible avec notre façon de percevoir quelqu'un qui commet des crimes odieux, ce que ça amène, ce que ça met en lumière, c'est le fait que cette personne-là nous manifeste qu'il n'y a pas d'incompatibilité nécessairement entre le fait d'être colonel puis le fait d'être un... Tu vois, on va s'obstiner comme la madame Margot...
What?
On va s'obstiner si c'est vraiment un tueur en série ou pas un tueur en série parce qu'il en a tué juste deux puis le critère, c'est trois.
Ouais.
Tu dis, ben en fait, le gars, c'est un sadique clairement. Simplement parce qu'il prend son pied à violenter des personnes, tu sais, fait que ce soit deux ou trois ou dix ou quinze, que ça change rien à la nature de ce qu'il fait, là, tu sais, bon, mais qui est en même temps colonel et aussi dépravé, c'est comme à tous les niveaux de perversité qu'on peut imaginer, tu sais. C'est incompatible dans une tête qui pense qu'il y a le bien et le mal.
Oui.
Et que en fait, il n'y a pas de symptôme d'un mal qui se cache dans le bien.
Ouais. Et ça, Jim Smith transcende ça.
Exactement. Excellent. Oui, exactement.
Parce qu'il ne s'adresse pas à lui comme le colonel,
le symbole. Exactement.
Il l'appelle Russell, puis explique-moi ce qui s'est passé, t'étais où?
Tout à fait.
Ouais.
Il transcende ça. Je m'adresse à toi comme personne humaine.
D'après toi, y vas-tu un jour... Parce que là, Russell Williams est incarcéré pour 25 ans. Je pense qu'il ne peut pas aller en appel avant... Je pense que quand il va avoir 72 ans, quelque chose comme ça, là. Mais outre ça, tu penses-tu qu'il va un jour vouloir raconter quelque chose? Parler de ce qui est arrivé, détailler, non pas des détails de ses crimes, parce que ça, on les voit, puis ils sont disponibles.
Puis c'est honteux pour lui.
Oui.
C'est gênant de raconter quand t'es tout... tu sais.
Oui, mais quand même, penses-tu que, parce que l'humain aime parler, hein, qu'il va vouloir dire quelque chose, pas nécessairement expliquer, mais élaborer quelque chose? Pour l'instant, il a toujours refusé, puis...
Ben, peut-être que toi puis moi, on pourrait essayer d'entrer en contact avec lui puis de voir s'il a le goût de nous parler à nous en pratiquant notre anglais.
Parce qu'à chaque fois, ça revient. Fait, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Ça, c'est revenu cette fois-ci, puis ça va revenir la prochaine fois, puis c'est revenu la fois avant. Il y a toujours une sorte de malaise flottant pour nous, puis ben en fait, il y a des gens qui l'ont pas, fait que c'est peut-être notre névrose respective, là. Tu sais, à dire comment on peut parler d'un cas comme ça, comment on peut en parler, point. Parce qu'il y a toujours après ça, soit qu'on se dit, mais c'est tellement épouvantable ce qu'il a fait vivre à certaines personnes, on veut pas être pas respectueux envers les victimes, est-ce qu'il faudrait ne pas en parler, on veut pas glamouriser rien, on veut pas ci, on veut pas ça. Finalement, tu sais, c'est facile de dire, oh, comment en parler, quel ton... Puis c'est arrivé, puis c'est pour ça que j'en parle, parce que ça nous vient souvent à l'idée de dire, tu sais, il faut avoir le bon ton, puis on devrait-tu faire un préambule qui pointe vers le fait qu'on veut pas minimiser rien en élaborant, puis en cherchant des choses. Puis j'ai vu, en fouillant un peu cette histoire-là, qu'il y a il y a plein de gens qui ont été interpellés par l'entrevue. C'est dur de pas être interpellé par cette entrevue-là.
Oui, oui.
Puis il y a quelqu'un qui a décidé d'en faire une pièce de théâtre qui s'appelle Room 216, qui était le numéro de la salle d'interrogation, tu sais, 216. Puis moi, de ce que je comprenais de la démarche artistique de la personne, c'est qu'il voulait faire ça respectueusement, puis il prenait des bouts d'entrevue, puis c'était découpé, puis c'était monté, puis c'était une pièce de théâtre. Puis il y avait quelqu'un qui jouait Jim Smith, puis il y avait quelqu'un qui jouait Russell Williams, puis qui jouait dans le sens théâtral du terme. Puis puis de monter quelque chose, puis d'élaborer quelque chose autour de ça, qui est aussi une réponse à l'horreur. Mm-hmm. De dire, on élabore, mm-hmm. on en dit mm-hmm. quelque chose, on ne veut pas rester figé dans l'horreur seulement, puis... Puis il y a plein de gens qui sont objectés à ça, dont Jim Smith. Puis il y a dans une blague de... Il y a dans un film de Woody Allen, à un moment donné, où Woody Allen, où un des personnages, dit la comédie, c'est toujours le drame plus le temps. Dans l'idée où quand tu ris de quelque chose, c'est jamais drôle. Si c'est trop vite, quelqu'un tombe et se fait mal devant toi, si t'éclates de rire, c'est pas drôle. Si tu y rappelles 10 ans plus tard, c'est, tout le monde s'esclave.
Mm-hmm. Ouais.
Mais il y a, okay. y a un peu... Mais il y a ça aussi. Tu sais, personne n'aurait se sentirait mal à l'aise d'élaborer pourquoi Brutus a tué César en se disant « On peut pas dire ça pour...
Pauvre César, il est mort. »
C'est ça. on est au clair. C'est correct. Mais encore là, tu sais, je suis mal à l'aise d'en parler.
De César?
Non.
Pauvre César. C'est non. vrai que c'est pas cool ce qu'il a vécu.
Non, je suis mal à l'aise de parler de The Room 216 parce que je veux pas rire des gens. Parce que les gens qui s'objectaient, entre autres, c'était un psychologue qui avait été ami avec une des victimes puis qui disait « C'est pas le moment. » C'est pas oui. le moment. Moi, je veux pas aller au théâtre puis entendre ça. Je veux pas entendre oui. les mots,
oui.
la description mm-hmm. de comment mon ami s'est fait tuer et torturer. Fait que là, tu mm-hmm. dis, ben, effectivement, ça a aucun sens. C'est pas le temps. Mais c'est quand est-ce le temps? C'est-tu 10 ans? C'est-tu 15 ans? C'est-tu 30 ans? C'est-tu 2 ans? Puis on en parle des fois, hein? C'est plus facile de parler de cas qui sont arrivés il y a longtemps et ailleurs que...
Loin.
Que récemment proche, parce que là, tu dis, on peut pas parler... Ben c'est fait que je voulais le souligner parce que c'est arrivé, puis Jim Smith, effectivement, il était pas d'accord, mais je pense que c'était peu de temps après, et donc ben, il y avait toute la sensibilité de dire ben, c'est pas le moment d'élaborer ce qui s'est passé.
Autant des crimes comme ceux que Russell Williams a commis sont épouvantable et propre à traumatiser tout un chacun et ont causé des torts réels et durables dans la vie de gens qui ont perdu des gens. Autant, tout le monde qui est interpellé par ces crimes-là qui finissent par, tu sais, qui se répandent dans la conscience publique, cherche des mécanismes pour les absorber.
Oui.
L'humour noir, le sarcasme, le cynisme, le théâtre, la chanson, c'est des façons de métaboliser le traumatisme. Puis, si c'est vrai que tu as des personnes qui sont traumatisées par l'effet direct des crimes de cette personne-là sur leur vie, t'as aussi des personnes qui sont traumatisées par l'effet indirect du traitement médiatique
ouais.
de ces crimes-là sur leur vie.
C'est le traumatisme de ne pas pouvoir en parler.
Oui.
De ne pas pouvoir l'élaborer.
Oui.
Puis de rester avec la charge.
Oui.